on avait un cours un peu particulier la dernière fois sur la conscience, comme j'ai pas reçu de mots pour savoir s'il y avait des points précisés, on reprend le point de vue du gouvernement de Dieu, le plan philosophique. Tout ce qui est connaturel à l'homme, à la nature humaine, je crois que c'est ça, parce que il faut avancer avec une certaine lumière. C'est pas la fantaisie, c'est la nature humaine. Or l'art est très humain. Une des propriétés de l'homme. Il fabrique sa maison. Il y a des animaux qui la font sur eux-mêmes. La qualité de l'homme, c'est de la faire à côté. On construit sa maison à côté. On construit tous les immeubles et l'art fait un effet autre que l'homme, autre que l'artiste. Un effet limité, de sorte que l'art fait partie du gouvernement ordinaire de Dieu sur l'homme, tandis que les interventions du Père, c'est lorsqu'il y a un dépassement de la nature et que nous sommes en face de la personne. C'est la personne qui est conduite par le Père, comme Père, et la nature. Le Créateur, c'est le Père, mais c'est en tant que, hein, comprenez bien. Alors le passage du beau au bien, parce que c'est au fond ça, l'artiste reste dans le beau, quand il l'atteint, c'est évident, quand il l'atteint pas, c'était pas beau. Et là, c'est sûrement pas Dieu. Je peux critiquer un artiste. Je le fais si je suis moi-même artiste. Quelqu'un qui est uniquement critique d'art, ne faisant comme métier que d'être critique d'art, est un mauvais critique d'art. Je me souviens, ça m'avait fait un effet très bien. Une fois, visitant, je ne sais plus trop, avec quelqu'un qui venait de la ville. C'était pas Paris. On visitait un forgeron qui était en train de mettre un fer à cheval à son cheval. Il fait ça très sérieusement. Eh bien, et c'était intéressant à voir pour quelqu'un qui n'avait pas de contact avec la campagne. Alors, il a commencé en me parlant à critiquer tout haut le type qui faisait ça. Alors l'autre s'est retourné. Monsieur, voilà le marteau, si vous voulez le faire à ma place. J'ai trouvé ça excellent. Si vous êtes critique d'art, vous devez pouvoir faire quelque chose de ça. Vous savez le faire. Évidemment, à ce moment-là, il est très, très vexé. Votre critique ne peut porter que si vous savez faire la chose. C'est vrai. Donc, parce que, autrement, ça reste l'art et pratique, connaissance pratique. Parfait. point de vue, c'est un peu la même chose au point de vue, je dirais, philosophique. Je ne peux critiquer que ce que moi-même, je l'ai fait et j'ai atteint là une vérité. Trop facile de critiquer pour critiquer. La critique pour la critique, c'est de l'idéalisme. C'est de l'idéalisme. Hein. Donc, alors, en ceci, c'est pour vous montrer que l'art, l'artisanal et les beaux-arts restent humains. Et donc, Dieu n'intervient pas directement. Alors, il peut se faire. Hein, que l'artiste soit chrétien et demande à Dieu de l'aider. Alors là, c'est le bon plaisir de Dieu. Dieu peut intervenir partout. Oui. Frangelico, c'est bien ce qu'on peut dire. On peut dire qu'il y a là une intervention de Dieu, étant donné que il fait ça en priant. Mais vous voyez, ça c'est en dehors de la philo. Je ne peux pas en parler au point de vue philosophique, c'est chrétien. Ici, je me place au point de vue strictement philosophique. Alors, c'est le passage de la nature à la personne. Parce que dès que vous touchez quelque chose de personnel, c'est différent. L'homme est seul alors. Dans la nature, j'ai tous les hommes qui sont avec moi. Ils peuvent me critiquer, ils peuvent m'aider, ils peuvent me soutenir. C'est pour ça qu'il y a une école. On peut mettre une école d'art, une école de peinture, une école de... Mais quand on touche la personne, le génie est très personnel. Alors, là, il y a peut-être une intervention de Dieu dans ce qui est génial. Ce qui est génial est au-delà de la nature humaine. C'est le dépassement par rapport à la nature humaine. Le génial est ordonné. Alors on peut dire que Dieu ordonne une œuvre géniale vers le bien pour pouvoir réaliser quelque chose qui va aider au point de vue bonté. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire. L'œuvre de génie dans n'importe quel ordre, génie littéraire, génie musical, génie quelque chose qui est au-delà, pas du banal. Je peux, une œuvre d'art naturelle peut atteindre le beau, mais c'est pas toujours génial. Il y a les une école. L'école continue. C'est sûrement pas intervention de Dieu dans le point de l'école. Et on a l'école de la scolastique. Être bon en scolastique, c'est-à-dire savoir harmoniser, savoir utiliser la logique. Sûrement pas intervention de Dieu naturelle. C'est naturel. C'est naturel pour l'homme dans le domaine qui peut être pris par la logique, d'être logique. Donc, est-ce que la recherche de la vérité est nécessairement personnelle? Et vous voyez comment je pose le problème, hein? Une recherche de la vérité en philosophie. en métaphysique, le sommet de la philo, en métaphysique. Et on a dit que tous les articles de saint Thomas impliquaient comme un secours de Dieu. On a dit ça sur saint Thomas. Quand le pape a considéré que ce que saint Thomas avait dit sur la métaphysique, les rapports de l'intelligence et de la foi, était ce qu'il y avait de plus élevé, de plus parfait. Mais je crois que ça exige un secours de Dieu, là, d'avoir l'œil à la foi. C'est différent. D'un point de vue purement philosophique, je crois que l'intervention de Dieu serait devant difficulté très spéciale, on arrive à dire quelque chose qui dépasse quelque chose de génial, qui dépasse le point de vue ordinaire, normal de l'intelligence humaine. Je ne peux pas dire l'intervention de Dieu, c'est nécessairement quand l'intelligence est ut intellectus. Non, je ne crois pas. Parce que la métaphysique et la philosophie, c'est l'intelligence ut intellectus. Ce n'est pas la raison. Et si vous voulez voir la différence entre raison et intelligence, la raison, c'est le mode naturel humain. Mais tandis que l'intelligence qui recherche l'être, c'est encore naturel. C'est peut-être génial, mais c'est encore naturel. Alors, si ça atteint la contemplation à la manière de Chupletin, ça atteint la contemplation. Je crois que là, on peut dire qu'il y a intervention divine. Et donc, le dépassement du beau vers le bien, si ce bien qui est atteint, nous le contemplons et c'est Dieu, le passage du beau à Dieu, considéré comme le premier dans l'ordre de l'amour, je crois que là, il y a intervention de Dieu. Je dis je crois, je n'ose pas l'affirmer. C'est la fameuse question que le petit groupe Tour de Maritain avait cherché. Savoir, y a-t-il une mystique naturelle? Et bon, c'était ça. Hein. Y a-t-il une mystique naturelle? Et il prenait toujours l'exemple de Plotin. Plotin, c'est une mystique naturelle. Alors, il semble bien que dans la vie de Plotin, il y ait des extases. Parce qu'on a trouvé Plotin une fois complètement perdu, séparé de la connaissance normale et perdu dans son regard sur Dieu. Donc, vous voyez, c'est un problème très délicat. Y a-t-il une mystique naturelle? Et le cas de Plotin. Sûrement Plotin, à ce point de vue-là, je crois que ceux qui sont troisième année de philo, quatrième année de philo, il faut lire un peu de Plotin. Parce que c'est très beau. Non seulement c'est très beau, mais ça touche quelque chose de très grand. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'Aristote, puisque c'est du néo-platonisme. Tandis que je ne dirais pas qu'il y a intervention de Dieu pour Platon. Parce que Platon, on reste lié aux idées. Et jusqu'au bout, ben, c'est lié aux idées. Ça. Son système n'éclate pas vers la vérité. Et quand il reste lié aux idées, il reste, je dirais, dans sa propre contemplation, selon un mode humain, selon un mode qui n'est pas juste. On ne contemple pas une idée. Il n'y a pas une contemplation de l'inné du bien. Donc, vous voyez, il y a là quelque chose qui reste très vague, qu'on ne peut pas préciser avec exactitude, parce que c'est entre le dépassement de la ratio, de la raison, le mode humain, et l'intelligence comme intelligence. L'intelligence comme intelligence est faite pour contempler. Et elle n'est parfaite que quand elle contemple. Et peut-elle arriver par elle-même, sans secours particulier de Dieu, à la contemplation? Je pose un point d'interrogation. Je crois que le passage du beau au bien, pour contempler le bien, exige un secours de Dieu. Un secours spécial de Dieu comme personne, parce que c'est vraiment la personne qui contemple. Ce n'est pas ma raison humaine. La preuve de l'essence de Dieu se fait par ma raison humaine, comme le début de la métaphysique. La métaphysique est quelque chose de supra-humain, mais qui reste humain. La contemplation naturelle, surtout si elle se prolonge, je crois, réclame un secours de Dieu. Un développement qui n'est pas normal et qui implique une aide spéciale de Dieu. Et donc ce passage du beau au bien reste très mystérieux. Et il peut se faire un peu plus tard. Je me demande alors là si vraiment, pour quelqu'un comme Plotin, il n'y a pas un secours de Dieu. Bon. C'est pour vous montrer que l'art, et c'est ça qu'il faut, l'art est humain et strictement relève d'un développement humain. Et par l'art, on peut atteindre quelque chose d'au-dessus humain, qui est un appel, et qui pour l'artiste, s'il ne croit pas en Dieu, ou ne croyait pas en Dieu, s'il y a cela, il y a comme une intervention de Dieu, et à travers son art, il découvrira Dieu. Mais vous voyez, c'est au-delà de l'art. C'est comme quelque chose de mystérieux qui a permis à l'artiste de découvrir Dieu. Mais ce n'est pas comme naturel à l'art de découvrir Dieu. Ce n'est pas comme naturel. L'art s'arrête au divin. L'art peut toucher du sublime, peut permettre une certaine disposition à la contemplation, mais ça reste la disposition. Pour celui qui recherche la vérité, donc en métaphysique ou en philosophie, il semble bien que le secours de Dieu est en raison de sa fidélité. Je crois. Donc, une raison qui n'est pas là. Une raison qui est humaine. Et je crois que pour rester fidèle à cette recherche de la vérité, sans abdiquer à 40 ans, à 45 ans, en disant c'est trop dur, c'est pas pour moi. Mais celui qui est fidèle toute sa vie à rechercher la vérité, il y a nécessairement un secours de Dieu. Ce n'est pas connaturel à l'homme d'être fidèle à la recherche de la vérité. Et c'est quelque chose de surhumain. Toute sa vie, momentanément, quand il est jeune, c'est normal, parce qu'il peut être alpiniste, métaphysiquement alpiniste. Il peut être vers le sommet du monde de l'Himalaya. Mais on peut le faire d'une façon continue à travers toute sa vie. Parce qu'il y a, une grande tentation, étant donné que, nous allons voir maintenant, que la contemplation philosophique est au fond très rare. Je dis bien la contemplation métaphysique, elle est très rare. De sorte que très facilement, on a à partir de 45 ans, on baisse les bras. J'ai cru que c'était pour moi cette vocation philosophique. Et puis je vois que non. Alors, pour ne pas perdre du temps, je fais autre chose. Alors, cela montre bien qu'il y a quelque chose quand même de surhumain pour maintenir toujours, toute sa vie, la recherche de la vérité. C'est au fond très rare. Et parce que c'est très rare, ça montre bien que ce n'est pas entièrement naturel. Et qu'un religieux, alors là, je passe un point de vue surnaturel, qu'un religieux reste toute sa vie chercheur de la vérité, qu'une religieuse cherche toute sa vie la recherche de la vérité, c'est normal, comme religieux, comme homme de Dieu. Et ce n'est pas normal comme homme, uniquement comme homme. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui nous montre bien qu'il y a, un dépassement de la nature humaine, un fameux dépassement. Ça nous met donc dans le dernier regard sur l'homme. L'homme ne trouve sa béatitude humaine, son bonheur humain, que dans la contemplation. Dans l'amitié, il découvre un certain repos, un certain bonheur, mais il n'est pas total, il reste partiel. Et c'est quand même quelque chose de très grand et très beau que je vous avais dit, c'était le choix d'une personne. Et là, il y a intervention de Dieu. Je j'en suis sûr. Le choix d'une personne. Alors, donc, deux interventions de Dieu dans le choix d'une personne, l'amitié, dans le choix de la contemplation philosophique. Je crois que là, pour ces deux, il y a l'intervention de Dieu. Parce que nous sommes en face du dépassement naturel. Ut sic. Comme naturel. Il y a quelque chose qui plus. L'amitié, je vous en ai déjà parlé, je crois. L'amitié exige ce don de soi. Et d'aimer chez l'ami ce qu'il y a de plus noble, de plus grand. Donc une amitié au sens très fort. Hein. Parce que la camaraderie n'exige pas le secours de Dieu. Une espèce d'amitié, vous voyez, qui existe, mais bon, on voit, on est heureux d'être ensemble, on travaille de temps en temps ensemble, on est heureux de faire ça. Mais je parle de l'amitié où il y a vraiment cet échange mutuel et qui dure, qui est au-delà du mouvement, qui est au-delà de la loi. Une amitié véritable comme amitié exige quelque chose qui dépasse la nature et regarde directement la personne et fait que on s'unit l'un à l'autre dans ce qu'il y a de plus noble, de plus noble, de plus grand en nous. On est au-delà de la nature. Et c'est pour ça que dans l'amitié, et on retrouve ce dépassement de la nature dans la contemplation. Alors là, beaucoup plus fort. Je crois que vraiment la contemplation naturelle, qui est personnelle, exige un secours particulier de Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas y arriver seul. Parce que justement, on atteint quelque chose qui n'est plus la nature, qui est la personne. Et dans l'amitié, on aime l'ami dans sa personne et dans ce qu'il y a de plus noble en lui, ce qu'il y a de plus grand en lui. Et dans la contemplation, c'est la même chose. Contempler Dieu humainement et que notre intelligence arrive vraiment à saisir la personne. Celui qui est à la racine de tout ça. notre intelligence-là peut se dépasser elle-même et être en relation directe avec Dieu. Voyez, c'est là où on comprend que Dieu nous a créé notre âme pour que nous puissions vivre de son propre bonheur. Cette contemplation philosophique est quand même l'activité humaine de beaucoup la plus grande. Donc l'activité humaine qui me fait me dépasser, atteindre ma fin. Et je suis comme suspendu, c'est le terme que prend Aristote, suspendu à ma fin, suspendu à Dieu. Dieu me fait sortir de moi pour le contempler. Et cette contemplation naturelle de Dieu est une contemplation qui me fait atteindre ma fin humaine, comme fin humaine, la fin de mon esprit, de mon intelligence. Mon intelligence n'est parfaitement elle-même que quand elle atteint sa fin. Mon intelligence humaine est parfaitement elle-même lorsque justement elle découvre cette fin. Contemplation de Dieu, qu'est-ce qu'elle atteint? Ça qu'il faut. Elle atteint Dieu comme être premier, comme être infiniment simple, comme personne. Et donc, c'est la bonté de Dieu, la bonté, c'est l'amour de Dieu actuel que j'atteins. Et je l'atteins par cet ultime dernier effort d'être tout à lui. Dieu a de plus aimable par rapport à moi-même, par rapport à mon intelligence et par rapport à ma volonté. C'est l'amabilité de Dieu, l'amabilité personnelle de Dieu. C'est le Dieu dans sa sagesse créatrice. C'est Dieu dans sa sagesse créatrice qui crée mon âme. Et mon âme rejoint à ce moment-là l'unité entre eux. Et donc, une espèce d'alliance qui se fait à ce moment-là entre mon âme et Dieu. Et une alliance qui me saisit dans ce qu'il y a de plus noble et de plus grand, de plus profond en moi. Grâce à cette contemplation, Dieu me révèle à moi-même ce qu'il y a de plus grand en moi, de plus beau en moi, de plus noble en moi. c'est bien ce premier amour que j'avais pour Dieu qui éclate, qui devient parfait et qui peut se tenir par lui-même et demeurer. Je crois que cela nous aide à saisir la bonté de Dieu, à saisir son amabilité, à saisir la pureté de son amour. Et même sans rien garder pour lui, Dieu, en effet, n'acquiert pas sa finalité par ma finalité. Dieu est pleinement et c'est bien l'amabilité même de Dieu qui est saisie en premier lieu et qui me permet de rester. Et c'est pour moi ce qui achève mon enquête philosophique, saisir Dieu et de le contempler, de saisir le Créateur. Oui, parce que je saisis Dieu toujours comme Créateur, et c'est Dieu comme Créateur que je saisis en lui-même. Parce que et c'est le Dieu créateur qui me fait saisir. Là, je crois qu'il y a vraiment une alliance naturelle avec Dieu. Vous voyez, c'est très peu affirmé, hein. Aristote l'a affirmé, et c'était très beau en face de Platon, parce que Platon, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa contemplation reste fixée aux idées, et donc il n'y a pas une vraie sortie de lui en Dieu, en être premier. Et saisissant Dieu de cette manière-là, je saisis que c'est bien cet effort contemplatif à cette contemplation naturelle qui finalise mon intelligence. Ce n'est pas la vision béatifique, hein, faisons attention. Ce n'est pas la vision béatifique. La vision béatifique est dans le surnaturel. Dans le naturel, Dieu est toujours autre, le transcendant. Et je saisis sa transcendance d'une façon ultime. Quand je peux dépasser la création de mon âme et saisir celui qui en est la cause. Parce que c'est par l'âme humaine que je peux préciser. Mon intelligence, alors, se, je dirais, dernier effort, dans une dernière appel, se tourne vers Dieu et reste fixé sans voir Dieu, puisque Dieu Dieu est posé comme un être nécessaire, et je peux saisir que cet être nécessaire me crée tout le temps. L'acte créateur est au-delà du temps. Il est dans le temps, il se termine dans le temps. Avec l'âme, l'acte créateur est un acte divin qui s'identifie avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui crée mon âme. Et il crée mon âme en raison de sa toute-puissance, en raison de sa possibilité de dominer toute chose. Et je veux, dans mon acte, de poser l'existence de Dieu, le contempler comme celui qui donne à ma vision béatifique toute sa signification, tout son sens. Et lui demeure autre, qui me dépasse complètement, mais je suis suspendu à lui. Donc il n'y a plus que lui. Vous comprenez ? C'est pas un être posé à côté des autres, c'est celui qui prend toutes mes forces vives de mon âme, de mon intelligence et de mon cœur. Donc je suis comme suspendu à lui, sans le voir, mais en sachant qu'il est présent. Cette présence, pas la présence de la vision béatifique, c'est la présence de celui qui est le maître de tout, celui qui est le maître de toute mon activité, de tout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.